Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 12h, c'est l'heure du journal sur Radio Okapi. La RDC ne va pas renouveler les mandats de la force régionale de l'EAC au-delà du 8 décembre 2023. C'est ce qu'indique le communiqué final de l'EAC publié à la clôture vendredi 24 de ce sommet des chefs d'État de l'EAC à Arusha en Tanzanie. À Kalemie, 4 enfants d'une même famille sont morts après écroulement des murs des clôtures dans les quartiers Kankomba. D'après des témoins, ces murs s'est écroulés sur la maison voisine dans laquelle se trouvaient les victimes. Anne-Sylvie Linder, chef de la sous-délégation du CICR à Goma, est notre invitée à l'occasion du lancement ce samedi 25 novembre de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Elle nous parle des actions du CICR dans la lutte contre les violences sexuelles. Madame, Monsieur, bonjour. Fulbert Balolagué devant le micro, Alain Goy et Thomas Nette. La RDC ne va pas renouveler le mandat de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est EAC au-delà du 8 décembre 2023. C'est ce qu'indique le communiqué final de l'EAC publié à la clôture vendredi 24 novembre à Arusha en Tanzanie de ce sommet des chefs d'État de l'EAC. Cette déclaration a été actée par les chefs d'État dans ces forums. Félix-Antoine Tshisekedi s'est fait représenter par le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, le ministre d'État à l'intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi et Léo, représentant du chef d'État Serge Tshibangu. Denise Loukesson nous en dit plus.
La décision de la RDC de ne pas renouveler les mandats de la force de l'EAC sur son sol a été défendue et bataillée farouchement par ses représentants durant ce sommet. Il a fallu plus de 4 heures de discussion à huis clos entre les chefs d'État pour parvenir à cette décision. Certains observateurs estiment que désormais, la page de la force régionale de l'EAC est définitivement tournée. Il est vrai cependant qu'il n'y a pas pour l'instant un calendrier de retrait des troupes. Le sommet a recommandé toutefois la tenue d'une réunion des chefs d'état-major de l'EAC pour valider les plans de désengagement. Cette réunion devrait connaître la participation des responsables militaires de la SADC appelés à remplacer la force de l'EAC, note la cellule de communication de la présidence de la République. Par ailleurs, le sommet d'Arusha a aussi pris acte de l'adhésion de la Somalie à l'EAC comme 8e membre. Au cours de ce sommet, le président du Burundi a cédé les bâtons de commandement à son homologue soudanais Salva Kiir, qui assure la présidence de l'EAC. Denis Loukesso, Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, rencontre mouvementée hier entre les victimes de guerre et la coordination des Frivao, l'organe mis en place par un décret présidentiel en vue de gérer les fonds d'indemnisation des victimes de guerre en RDC. Cette première rencontre a accouché d'une souris en cause l'incompréhension née de la procédure à suivre avant l'indemnisation des ayants droit. Vu la difficulté de gérer correctement la psychologie des masses, le coordinateur des Frivao envisage des rencontres au niveau communal. Un reportage signé Jacques Moukonkole.
Au cours de cette première rencontre entre la coordination des Frivao et les victimes, cette institution devait les informer de la procédure à suivre avant leur indemnisation. Selon le coordonnateur national de Frivao, l'on doit avant toute chose procéder à la certification des victimes. Monseigneur François Moirabou.
Il est un fait que pendant déjà les événements, la communauté, à travers les groupes organisés, ont eu à documenter les événements qui se sont passés. Nous allons partir de ces archives-là, puisque aujourd'hui nous avons des documents actualisé. Alors nous allons faire procéder à une sorte de confrontation, c'est ce qu'on appelle vérification. Au fur et à mesure nous allons avancer, il y a moyen de résoudre progressivement par étapes.
Ce point de vue n'est pas apprécié par la plupart des victimes des guerres. Leur souhait est que Frivao tienne compte des listes élaborées par leur propre structure et procéder immédiatement à la remise des fonds. Dieu merci qu'elle est qu'elle est.
Je ne suis pas tellement content par rapport à sa déclaration première. Ces victimes sont catégorisées. Il y a eu ceux-là qui ont subi des dégâts matériels, des dégâts corporels, des maisons endommagées.
La coordination rappelle que ces fonds concernent également les victimes de la Grande Orientale. Il y a aussi les réparations collectives à envisager. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Rendons-nous au Tanganyika, précisément à Kalemi. 4 enfants d'une même famille sont morts après l'écroulement des murs de clôture dans le quartier Kankomba. D'après des témoins, ces murs s'est écroulés sur la maison voisine dans laquelle se trouvaient les victimes. Le bourgmestre de la commune du lac déplore les constructions anarchiques à Kalemi qui, d'après lui, sont à la base de beaucoup de tragédies. Palem Munanga pour d'amples détails.
D'après un membre de la famille des victimes, la mère et la fille aînée s'en sont sortis indemnes. Malheureusement, 4 autres enfants sont décédés suite à l'écroulement du mur construit avec des moellons. Albert Tamboué demande l'aide du gouvernement pour l'organisation des obsèques. Signalons que ce drame est survenu après la pluie qui s'est abattue sur la ville dans la matinée de ce vendredi. Pour les bourgmestres de la commune du lac, les constructions sans respect des normes urbanistiques sont à la base de plusieurs dégâts. Janvier Mouchoukiwa.
Je déplore encore les constructions anarchiques. Avant de construire dans un site, il faut d'abord vérifier le site. On est en train de construire dans n'importe quel site, même dans un site érodable, un site vraiment à problème. Et aujourd'hui, ça cause des accidents. Donc, il y a certains accidents qui sont causés à cause de non-respect des normes cadastrales ou bien urbanistiques. On est en train de construire partout et les accidents maintenant nous arrivent.
Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'un mur s'écroule et fait des victimes dans la ville de Kalemi. Kalemi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Autre chose, conscientiser la presse congolaise pour un monde meilleur et sans violence sous le thème « Tous unis, investir pour préserver les violences faites aux femmes et aux filles ». Ces points étaient au menu de la conférence de presse organisée hier vendredi 24 novembre à Kinshasa par ONU Femmes ainsi que le Fonds et Agences des Nations Unies. C'était à l'occasion du lancement des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres que célèbrent les Nations Unies du 25 novembre au 10 décembre. D'autres détails avec Jeff Opela.
Un jeu de questions-réponses a caractérisé ces rendez-vous. Chaque cas de violence est un cas de trop et rien ne peut justifier la violence. Sur ces, pas d'excuses. A martelé Adama Moussa, les représentants pays de l'ONU Femmes en RDC.
La seule façon d'avoir des transformations importantes, c'est de faire en sorte que nous investissons dans la prévention, de faire en sorte qu'il n'y a pas d'excuses à ne pas investir, de faire en sorte que les survivantes ne soient pas laissées seules, qu'il y ait une solidarité agissante à tous les niveaux de tous les acteurs et de toutes les agences.
Le directeur du BCNUDH, Patrice Vaha, pour sa part, exhorte à l'éradication du silence et de l'indifférence au regard des violences sur le genre pour avancer.
Il y a deux facteurs qui contribuent à maintenir une situation déplorable de violences faites aux femmes et aux filles. Le premier facteur, c'est le silence. Et le second facteur, c'est l'indifférence. Cette réponse n'appartient pas à notre société aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on n'aura pas enlevé les obstacles au silence et à l'indifférence, face à cette situation, nous n'aurons pas fait assez.
Retenons que cette campagne de sensibilisation court jusqu'au 10 décembre 2023.
Rendons-nous au Nord-Kivu. Le directeur de la province éducationnelle de l'EPST Nord-Kivu 2 met en garde les responsables dont les établissements sont utilisés comme lieu de campagne électorale. Salomon Chaloumo Sambali rappelle que les élèves doivent étudier dans un climat apaisé et ne peuvent pas être associés dans les affaires politiques. Il ajoute que l'école est apolitique. Pour ce faire, il demande aux acteurs politiques et candidats aux différents scrutins de ne pas perturber les activités en milieu scolaire. Le prophète Salomon Chaloumo Sambali est au micro de Grévis Salomon.
Tel que vous connaissez, durant cette période, il y a toujours eu des dérapages. Donc ce qui est là, il serait mieux qu'à chaque matin qu'on puisse informer les enfants qu'il est important qu'on nous épargne de ces photos au niveau des écoles parce que les affaires de campagne ne se déroulent pas dans les écoles. Les enseignants doivent veiller à tout cela. Les affaires politiques, c'est en dehors les milieux scolaires. Tous les chefs d'établissement sont informés à travers nos instructions que les affaires politiques, les affaires de campagne ne doivent pas se mener dans les écoles. L'école est apolitique et on doit épargner les enfants de cette histoire de campagne en milieu scolaire. Tous les candidats, s'ils doivent mener les campagnes, ils doivent les faire en dehors de l'école. Ils ne doivent pas amener des bruits quand ils arrivent là où on est en train d'enseigner. Ils ont besoin d'aller défendre les intérêts de la population. Ils ne doivent pas être les premiers à nuire les enfants. L'enseignement est neutre, l'enseignement est apolitique.
Puisque nous parlons campagne électorale, sachez que le candidat président Agrey Ngalas a lancé vendredi à Kinshasa sa campagne électorale. Il affirme avoir reçu l'ordre des dieux pour relever le Congo. Il promet de poursuivre sa campagne dans la ville de Kinshasa. Le même vendredi, le candidat président Moïse Katumbi a appelé les habitants de Kamituga à participer massivement aux élections générales du 20 décembre prochain. Le candidat numéro 3 poursuit ce samedi sa campagne électorale dans les villes de Beni et Butembo. Le candidat président Félix Antoine Tshisekedi, qui est à Kinshasa de retour de Kindu, se rend ce samedi à Zongo et Gemena dans la province du Sud Ubangi. Pour sa part, Constant Mutamba, candidat numéro 2, est attendu ce samedi dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe. Le candidat Noël Tchani, lui, est à Kikwit dans la province du Kwilu. Retournons au Nord Kivu. Les anciens agents du Fonds national pour l'entretien routier lancent un ultimatum de 48 heures à leur employeur pour être remis dans leurs droits. C'est depuis la privatisation du Foner en 2018 que ces agents ont perdu leur emploi. Depuis, ils réclament leurs indemnités de sortie alors qu'elles ont été payées dans d'autres provinces. Ceux du Nord Kivu n'ont rien perçu. Ils viennent de totaliser plus de 70 jours de sit-in devant les bureaux provincial du Foner. Esdras Mukonzo, l'un d'eux, s'exprime en ces mots.
Il y a maintenant plus de 2 ans que Foner avait payé les indemnités de sortie à nos collègues agents de la province Ituri, la province du Sud Kivu, la province de Maniema. Depuis tout ce temps, maintenant 2 ans ici, nous, agents du Nord Kivu, nous ne sommes pas encore payés. Et nous nous disons pourquoi nous sommes marginalisés ici au Nord Kivu, alors que d'autres ont été payés il y a de cela plus de 2 ans. Mais nous, nous sommes en train de réclamer et nous n'avons pas de réponse suffisante par rapport à nos préoccupations. Nous, nous voulons que Foner nous remette dans notre droit, qu'il nous paie nos indemnités de sortie d'ici 48 heures. Si tel n'est pas le cas, alors nous serons contraints de fermer les bureaux de Beni et les bureaux de la direction provinciale de Goma. Ils sont sit-in il y a plus de 70 jours au bureau de Foner Goma et ils passent nuit à la Belle Étoile sous différentes intempéries et nous nous disons que trop c'est trop. Si d'ici 48 heures Foner ne veut pas nous remettre dans nos droits, eh bien nous allons fermer les portes du bureau de Foner jusqu'à ce que Foner puisse répondre à nos préoccupations, à nous remettre dans nos droits, à payer nos indemnités de sortie.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de Jean-Pierre Bundoki Ndongala, directeur provincial du Foner, sont restants vains. Et à Lubumbashi, plusieurs éléments de la police des mines et hydrocarbures ainsi que ceux de la Légion nationale d'intervention ont été outillés sur la protection et le respect des droits de l'homme dans les sites miniers. Pendant 5 jours, soit du lundi au vendredi, ils ont appris plusieurs notions qu'ils vont à leur tour répercuter auprès d'autres policiers pour que les violations des droits de l'homme tant décriées par les ONG de défense des droits de l'homme dans les sites miniers soient bannies. D'amples détails avec Timothée Mbouya, président national de Justicia Asbel, un des organisateurs de cette formation. Il est au micro de Jean Gandou.
Nous partons d'un constat selon lequel sur les sites miniers se commettent plusieurs violations de droits humains imputables aux éléments de la police des mines qui sont commis à la protection des sites. Non seulement la police des mines, mais également les autres unités d'intervention auxquelles les miniers font souvent appel pour faire face soit à des incursions barbares, soit à des vols des minerais. Le constat est donc que sur les sites miniers, généralement, il y a beaucoup de violations de droits humains, notamment mort d'hommes, organisation des lieux de détention prohibés, tortures qui sont attribuables à la police. Les policiers qui viennent d'être formés vont à leur tour aussi devoir former plusieurs autres policiers et nous allons faire des séances de suivi pour savoir si les notions apprises sont effectivement mises en application. Nous le constaterons notamment sur terrain lorsque on aura enregistré moins de violations de droits humains ou si vous voulez, 0 violation de droits humains sur les sites miniers.
J'ajoute que cette rencontre a été organisée par Justicia Asbel en collaboration avec la police nationale congolaise et DICAF, une fondation suisse. 200 panneaux solaires, dont quelques-uns déjà installés, apportent de l'électricité depuis quelques jours au sein de l'école Georges William de Imka au quartier Matongé dans la commune de Maluku. Nous sommes à Kinshasa. Une cérémonie d'inauguration de ces panneaux s'est déroulée hier vendredi au sein même de l'établissement en présence de milliers d'élèves. Cette dotation provient des FPK, la Fondation Pierre Company, un député au Parlement de Bruxelles et docteur honoris causa accompagné par l'Icebell Friendly Foot. D'après ces députés d'origine congolaise au Parlement de Bruxelles, l'électrification de cette école par ses panneaux solaires est l'aboutissement d'une action débutée depuis des années qui s'agrandit davantage au bénéfice des élèves congolais évoluant au sein de cette école. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Monsieur le directeur général, monsieur le président, l'éducation de nos enfants, c'est une préoccupation principale pour vous au nom de la nation. Si je suis intervenu dans les panneaux solaires, c'est parce que je suis entré avec vous dans des classes où il y avait pénombre et les enfants regardaient leurs tableaux. Ils étaient intéressés. Et c'était le moment où on a lancé dans ce pays l'enseignement gratuit pour les enfants. Et j'ai vu beaucoup d'enfants dans la salle de classe qui n'avaient pas encore meilleur positionnement, mais les enseignants tenaient compte de tous les enfants. Et à la limite, leur difficulté d'accueillir autant d'enfants était atténuée par le fait qu'ils étaient conscients que sans eux, sans leurs préoccupations de l'enfance, le pays n'ira pas plus loin. Et ce pays ira très loin, grâce à vous, grâce aux enseignants.
Actualité internationale.
L'ONU met en garde contre l'expansion du trafic illicite d'or au Sahel, alors que le Burkina Faso vient d'annoncer la construction de sa première raffinerie d'or. Un nouveau rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes met en garde contre l'expansion du trafic illicite d'or au Sahel. À la fois véritable manque à gagner pour les ressources étatiques du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger, et source de financement des groupes armés dans la région.
L'invité.
La violence sexuelle est un traitement indigne et humiliant condamné par le droit international humanitaire. Propos de Madame Anne-Sylvie Linder, chef de la sous-délégation du CICR à Goma. C'est à l'occasion du lancement, ce samedi 25 novembre, de la campagne internationale de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Quelles sont les actions du CICR dans la lutte contre les violences sexuelles? Madame Anne-Sylvie Linder nous en parle dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Madame Anne-Sylvie Linder, bonjour.
Oui, bonjour Rosalie et à tous vos auditeurs.
Quelles sont les actions que mènent les CICR pour lutter contre les violences sexuelles en RDC?
Le CICR travaille en fait sur deux aspects principalement. Premièrement sur la prévention et aussi sur la réponse quand les personnes ont été victimes de violences sexuelles. On s'intéresse particulièrement aux violences sexuelles qui sont en relation avec le conflit armé, comme c'est le cas ici à l'Est et dans la province du Nord Kivu. Et quand on parle de prévention, en fait, on parle de divers aspects. Premièrement, la spécificité du CICR, vous le savez, c'est d'avoir ce dialogue bilatéral et confidentiel avec tous les porteurs d'armes pour faire respecter le DIH. Donc ça, c'est une action qu'on fait de manière continue avec les porteurs d'armes et qu'on fait particulièrement sur la violence sexuelle. Donc on a des formations qu'on fait auprès des porteurs d'armes sur la violence sexuelle en particulier, sur sa prévention, sur le fait que le DIH l'interdit. On parle avec les gens qui ont une fonction de commandement afin qu'ils fassent respecter ça par leurs éléments. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on essaye de construire en fait un environnement sûr autour des personnes. Donc il y a tout un travail, on a des campagnes de sensibilisation auprès des communautés afin que ces mêmes communautés soient en fait un environnement protecteur des femmes dans leur communauté. Si les cas de violence sexuelle se présentent, pour qu'elles sachent où chercher de l'aide, notamment vers quelles institutions de santé se diriger. Et puis on fait aussi un travail d'analyse. Je vous donne un exemple. Souvent les femmes, quand elles vont chercher le bois ou quand elles doivent aller chercher de l'eau ou aller aux champs qui sont relativement loin de leur lieu de résidence, il y a souvent des risques qu'elles soient soumises à des violences sexuelles. Donc dans notre travail d'assistance, par exemple, dans tout ce qui est accès à l'eau, on essaie de rapprocher les services auprès des personnes afin d'éviter ce genre de choses. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose d'un peu particulier du CICR. Et il y a toute la réponse aussi. La réponse, elle est aussi multidimensionnelle.
Et dans la prévention des violences sexuelles, votre particularité, c'est les dialogues avec les porteurs d'armes, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez donner plus d'explications sur cette action?
Oui, bien sûr. C'est un dialogue confidentiel. À ces mêmes acteurs armés, on présente ce qu'on observe parce qu'on a des discussions avec les victimes sur le terrain. On leur présente des cas, on leur présente des tendances qu'on observe. et on essaie de travailler avec eux pour éviter leur répétition. Et puis on leur fait comprendre aussi l'importance justement de respecter ces civils en tout temps. On parle de violences sexuelles, mais il y a aussi d'autres abus des fois qui sont commis. Et on se réfère à tous ces abus avec tous les porteurs d'armes.
Le Nord-Kivu fait face à des combats armés intenses avec une diversité des troupes sur son sol. Est-ce que les CICR sensibilisent tous ces acteurs armés sur l'interdiction des pratiques des violences sexuelles sur les civils?
Oui, absolument. Comme je vous le disais, l'interdiction de la violence sexuelle fait partie des thématiques que le CICR aborde. Effectivement, on vit un moment particulier ici dans le Nord-Kivu. On a énormément d'hommes en armes qui sont impliqués, mais on a fait cet effort auprès d'eux pour rappeler qu'il y a des choses qui sont interdites au niveau du DIH. Notamment, on considère la violence sexuelle comme étant un traitement indigne et humiliant qui est condamné par le droit international humanitaire. Mais comme je vous le dis, on travaille beaucoup plus sur la persuasion pour que ces comportements puissent changer sur le long terme.
Et justement, quel est l'impact de ce travail que vous faites ici au Nord-Kivu, dans nos communautés?
Alors écoutez, l'impact, c'est toujours la chose la plus difficile à mesurer. Là, sur le dialogue, c'est aussi des choses qui sont difficiles à mesurer. Je crois qu'au niveau de la prévention, on a fait beaucoup avancer, notamment sur la construction de ces environnements protecteurs. Dans beaucoup d'endroits, on a fait ces sensibilisations avec notre département de santé mentale. On a des relais communautaires au niveau du terrain. Donc voilà, il y a aussi une visibilisation de l'existence de cette dynamique. Donc je pense que là, on a un impact sur vraiment avoir un environnement protecteur pour ces victimes. Et aussi, je pense, tout le travail qui est fait quand on discute avec tout ce qui est en fait la réponse qui est apportée au niveau de l'assistance. La recherche aussi d'éviter ces risques. On a vu des résultats, par exemple, quand on a pu approcher ou les cultures ou le système d'adduction d'eau aux communautés. Voilà, on sait qu'on a évité un certain nombre de cas. On ne peut jamais dire combien. Mais on sait qu'on en a invité un certain nombre.
Madame Anne-Sylvie Linder, je rappelle que vous êtes chef de la sous-délégation du CICR à Goma. Merci.
Merci à vous, Rosalie, et bonne journée.
Merci.
C'est ainsi que se referme ce journal de midi sur Radio Okapi, supervisé par Alain Irong, coordonné par Jacques-Yves Molima, mis en onde par Alain Goyi, présenté par Fulbert Balolagué. Merci de l'avoir écouté.